bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Fameux le chocolat.
La bande originale avec les cadeaux que j'ai
mis.
Marina Rollman.
Bonjour Daniel.
Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Tom Villa.
Bonjour.
Tom Guy Passiro sera tout à l'heure et notre invité François Damien. Tout va bien François ?
Très bien, ouais.
On est ravis de vous accueillir, déjà parce que à la base, on vous aime. Oh. Vous êtes, oui, c'est vrai, ça fait quoi, 3-4 fois que vous venez ici.
Ouais.
On commence à s'habituer, hein.
Ouais.
Petit bisou dans le cou maintenant. On a commencé au tout début. C'est la 6e saison, n'oubliez pas, de la bande originale.
Subliminal. Tout le monde prend sa parole. Mais Tom a tellement raison, genre il a pas fait exprès.
De n'oubliez pas la bande originale, donc la 6e saison, la première fois qu'on s'est vu, on s'est serré la main, la deuxième, on s'est fait la bise, maintenant limite c'est dans le coup. On se rapproche,
Vivement la septième.
François Damien à l'affiche de ce film Fourmi, Fourmi étant le surnom qui ne fait pas plaisir à tout le monde, d'ailleurs le surnom d'un jeune gamin footballeur qui est votre fils, joué par Malome Paquin, qui est incroyable ce gamin, il joue tellement bien, et pas qu'au football, il joue bien au foot mais il joue bien au cinéma aussi.
C'est vrai qu'il est, il est authentique quoi.
Il est juste.
Ouais, il joue avec beaucoup de sincérité et c'est vrai que
il y a deux, les enfants jouent bien, il y a une autre gamine aussi qui est assez impressionnante,
Cassiopée.
Je vais retrouver son nom, Cassiopée.
Mayence,
ouais. Voilà, qui joue Roman, qui est également extrêmement bouleversante. L'histoire donc d'un gamin qui joue au foot. Un papa plutôt penché sur l'alcool, qui est en train de rater sa vie, qui a pas de boulot,
qui se cherche.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Un peu comme tout, t'aurais pu avoir le rôle.
Mais je connais le dossier.
C'est ça.
Il a loupé le casting à ça.
En termes de coupe de cheveux et de barbe, mais pour le jeu, c'est autre chose.
Revenons au film.
Et puis ce gamin est plus
un enfant divorcé.
Il a perdu son boulot.
Ludivine Sagnier étant sa maman, elle reconstruit sa vie. D'ailleurs, il est extrêmement drôle le personnage aussi du beau-père. Ouais.
Ouais.
Et puis ce gamin est repéré peut-être par un grand club de football qui est Arsenal. André Dussolier étant son entraîneur, espère pouvoir éventuellement le mettre dans un sport-études en fait, ou dans un centre de formation à Arsenal. Et de là part toute l'histoire, c'est-à-dire que le gamin veut tout faire pour faire plaisir à son papa, c'est-à-dire lui mentir et lui dire qu'il est pris Arsenal.
Mais c'est ça, parce qu'il se dit que s'il est pris Arsenal, il va devoir être accompagné par son père ou par sa mère. Il espère que ce sera son père, parce que si son père l'accompagne, il va devoir se
ressaisir. Ouais.
Voilà, se ressaisir et donc il espère qu'il arrivera à le sauver, parce que c'est vrai qu'il y a plus grand monde autour du père, quoi.
La vraie question, c'est faut-il qu'un enfant mente à ses parents pour leur faire plaisir ? Ça, c'est le premier truc, parce que c'est pas un mensonge qui est fait pour être utile au gamin, c'est l'inverse, c'est un mensonge pour faire plaisir au papa.
À bon escient, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est un peu.
Et il a la charge de rendre son père heureux. D'un coup, il se responsabilise. Il dit c'est à moi de rendre mon père heureux.
Ouais, c'est ça, il est plus responsable que son père, quoi. C'est l'enfant qui devient le père de son père, quoi. Mais c'est souvent comme ça dans la vie, d'ailleurs. Quand on a affaire à un père défaillant, c'est souvent les enfants qui sont plus responsables que les enfants.
Ouais, c'est ce qui arrive au fur et à mesure que la vie avance, pas quand un enfant a une dizaine d'années comme lui. Enfin, je sais pas, il a quel âge
il a 12 ans,
Ouais, c'est ça. Et c'est extrêmement drôle, c'est bourré de vannes. C'est à la fois dramatique, parce que ce père est dans la loose et que il y a quelques histoires comme ça. Il y a quelques personnages qui sont totalement dans la loose, mais c'est souvent le côté dramatique qui peut faire rire. Là, c'est encore le cas. Il y a des pures je sais pas comment tu l'as vécu, mais enfin moi je me suis aussi marré que j'ai pleuré à la fin.
Ouais, c'est hyper émouvant parce que déjà le lien que vous tissez avec cet enfant, de vous voir dans ce personnage de père comme ça un peu perdu, et puis de voir cet enfant qui avant même d'avoir un père défaillant et a envie d'être toujours un secours pour les autres, d'être toujours
Pas
là.
Pas que pour son père, t'as raison.
Pas que pour le père, donc c'est une sorte de mission, une sorte de sacerdoce individuel.
Ouais, il voit toujours les choses de manière positive.
Voilà, et ce mensonge va être aussi un support du comique parce que à partir du moment où on commence à mentir, après il va falloir faire créer des preuves de ce recrutement par Arsenal, et là vient toute une bande de copains tout autour de lui qui vont inventer
des geeks, même
des faux mails, des faux envois de cadeaux, et c'est hyper tendre et c'est très très touchant.
Daniel, tu l'as vu le film?
Oui, j'ai vu, et c'est vrai qu'on rit, beaucoup, mais au-delà de ça, je trouve que vous êtes formidable, François Damiens, dans l'émotion, même dans les silences, juste dans les regards. J'étais bouleversé à de nombreuses reprises, et c'est vrai qu'on oscille d'une émotion à l'autre, parce que de temps en temps, c'est un para, parce que vous nous donnez envie de pleurer à un moment, puis d'un seul coup, vous voulez casser la gueule à quelqu'un, et vous nous faites mourir de rire.
On va reparler de ce film, ça s'appelle Fourmi, le film est signé Julien Rapneau, j'ai oublié de le préciser, le casting dont François Damiens, Malôme Paquin, ce déjà grand acteur, même du haut de ses 12 ans, André Dusselier, Ludivine Sagnier, Laetitia Deutsch, entre autres, et puis il y a également cette Cassiopée Mayence qui fera parler d'elle, parce que ça joue bien, ça joue juste, et puis c'est bien réalisé par Julien Rapneau, et mis en musique par son frère, évidemment, Martin. Mais d'abord, avant de continuer, l'interro pour savoir des choses sur François Damiens. Quel animal lui fait peur?
Les chiens?
Non.
Les pigeons?
Non.
Les hommes?
Non.
Les oiseaux?
Grenouilles?
Non.
Les femmes?
Les requins?
Les requins?
Des oiseaux?
C'est vrai que t'en croises tous les jours, des requins.
Des oiseaux?
Surtout dans ce
métier. Pigeons?
Non, pas oiseaux.
Les poissons?
Non plus.
Insectes?
C'est fou ça.
Les insectes, les gars. Les
rats. Mammifères.
Pardon, oui, voilà. Bah, j'allais dire à Paris quand même, c'est un peu.
On en croise pas tous les jours, non.
Quand même.
T'habites où?
Les rats, mais c'est à Paris. c'est une phobie ou c'est juste un dégoût?
Non, c'est une phobie.
Parce qu'il paraît que les rats ne sont pas sales.
Il paraît
que les rats sont propres.
C'est
une question de propreté. Ouais.
Il paraît qu'il y en avait dans le sud de la France cet été à Port-Croix.
Ah bon?
Mon frère qui était là.
Ah bon, vous avez l'adresse en plus. Aux deux rues de la librairie, voilà, il y avait un
club du rat propre.
Non, mais il y en avait sur les bateaux, il devait mettre.
Sur les bateaux?
Ouais.
C'est dangereux ça. Ouais. Un rat sur un bateau, c'est dangereux.
Il mettait des bouteilles aux amarres pour qu'ils ne montent pas dessus. Et ils arrivaient même à nager et monter quand ils étaient à l'ancre dans les...
Non. Ah, écoutez, les produits illicites...
Ça s'appelle les migrants, c'est autre chose.
Oh, c'est dégueulasse cette vanne.
Non, pas sur France Inter, Rire de résistance.
L'occupation préférée de François Damiens sur son ordinateur. Qu'est-ce qu'il aime faire sur son ordi? Marina.
Balader sur Google, des jeux. Traîner sur YouTube.
Sur Google, oui, sur Internet.
Regarder des vidéos de chat?
Non. C'est pas des vidéos.
Des tutos, des...
Non, c'est un truc de voyeur.
Ah, sur Google Maps, d'aller voir
Exactement.
Trucs.
Exactement.
Ça, j'aime bien,
Google Earth,
d'aller voir...
C'est-à-dire survoler, en fait, la Terre.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, il peut faire des zooms et des zooms très rapides. Tout ça.
Il y a énormément de stupéfiants. Ouais.
T'es Superman avec une bière dans la main.
S'il voit des rats nager monter sur les bateaux, il peut aussi faire zoom des zooms.
Exactement.
Sur Google Earth. Vous allez visiter des villes ou vous allez voir les maisons de vos copains?
Non, je vais voir des maisons, je vais voir des villes et puis... Ouais, je regarde les endroits du monde où je me dis, tiens, ça a l'air d'être chouette là-bas, des petites presqu'îles, des petits endroits, et puis je redescends, puis je vais voir dans la rue comment
donc
c'est.
Donc vous allez voir des... Alors, pardon.
Des voyages, quoi.
Oui, mais parce que en apprenant cette information, je me suis rendu compte que chaque fois, je n'allais voir que des lieux, entre guillemets, que je connaissais.
Ouais.
C'est-à-dire, soit des adresses où je dois aller, soit, tiens, ça serait marrant de voir d'en haut tel ou tel endroit. Mais c'est vrai qu'on pourrait très bien, peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs, taper des adresses que vous ou des pays où vous n'êtes jamais
allé. Mais en fait, je regarde les petites presqu'îles, les petits endroits qui ont l'air. Je me dis, tiens, ça a l'air bien. Puis je vois une plage, puis je vais voir le bar de la plage, puis je vais voir les trucs.
Et puis je me commande un truc. Mec, il est passé en 4D.
Ouais, carrément, ouais.
Est-ce que vous êtes allé voir chez vous? Il y a un côté intrusif quand même dans Google.
Ouais, j'étais voir chez moi. Mais ça donne moins bien vu d'en haut, en fait.
Alors vous pouvez faire le street view. Après, vous prenez le petit bonhomme jaune et vous le mettez dans la rue. Ouais.
Et d'ailleurs, devant chez moi, il y a encore mon ancienne voiture, quoi.
Ouais, ça fixe.
Non, mais alors, il y a un truc qui est assez flippant. C'est-à-dire que dans la sortie du garage, parce qu'il masque, il floute les plaques, les gens.
Ouais,
c'est toi?
Les plaques. Alors non, c'est ma douce étante, c'est ma femme qui sort de la maison, qui floutait, mais qui est blonde. Donc je me dis juste, si le jour où Google Earth passe, c'est une brune qui sort de chez toi et que ta femme dit c'est qui celle-là? Tu fais quoi?
Ça complique les choses.
Pour ça, ça veut dire qu'il faut posséder l'immeuble.
Oui, c'est vrai.
Aussi.
Oui, j'ai le problème.
Évitons les banalités. Oui. Non, mais c'est vrai, t'as une autre question?
Non, c'est juste, voilà.
Un jour, pour une caméra cachée, alors que François Damiens joue le rôle d'un douanier, que découvre-t-il dans le coffre de la voiture?
De la drogue?
Non.
Ah, une personne.
Des armes?
Pardon?
Une personne?
Non.
Des animaux?
Un cadavre, tu veux dire?
Non, juste quelqu'un de ligoté qui dit bonjour.
Non. Des animaux, un rat, non plus.
Pas des
la
armes.
La contrebande, des faux sacs, des.
Non.
Donc quelque chose.
Volé. Une télé volée.
Alors je sais pas si c'était volé, mais enfin c'est surprenant d'ouvrir le coffre d'une voiture.
14 magnétoscopes.
Et de tomber là-dessus. Ils sont petits.
Des animaux?
Non.
Un serpent, un truc comme ça.
Des plantes?
Un truc que pourrait chercher un douanier.
Ah, des faux, cigarettes. Des contrefaçons.
Non.
Des faux sacs.
Non.
Qu'est-ce que vous trouvez dans les...
Ah, de la charcuterie, mais en...
en nombre.
Tu passes du sac à la charcuterie, je sais pas en quoi sont faits
des sacs. Mais parce que tu passes la frontière, tu sais, c'est moins cher, certains côtés. Non, vous faites pas ça, c'est avec la Suisse. On achète des trucs chez vous et on vient les manger chez nous.
Ah ouais.
Autant venir chez nous les manger et
digérer chez
toi. Une bombe, de l'essence, des trucs, non?
Une femme empaillée.
Non.
Combien? Des faux papiers.
Des faux papiers, non.
Des sans papier.
Mais c'est du papier.
C'est du papier.
Bah,
de l'argent.
Exactement.
Je l'ai déjà dit avant.
Tu l'avais déjà dit?
Oui.
Ah, pardon, je m'étais endormi.
Ah, j'ai entendu.
300 000 euros.
Ah, t'as fait beaucoup.
Est-ce que vous avez compté?
12 millions de francs belges, ouais.
Ah oui, c'est
chouette, ça.
Vous les avez gardés?
Non, mais surtout, c'était un peu flippant, quoi, parce que c'était un gros 4x4 Mercedes Popol. Noir. Et un jeune, 18-20 ans, je l'arrête, je le mets sur le côté. Et puis je sens qu'il est extrêmement nerveux.
Tu m'étonnes.
Je lui dis, on va procéder à une FA. Donc une fouille anale, comme on dit. Et pendant que je suis en train de marcher...
Vous dites tout, hein, Mercedes, anale, c'est ça. Vous êtes libre.
Mais j'ai pas compris FA, merci de la précision.
Voilà. Et ils étaient où les 300 000 euros alors?
Non, les attachés
caisses.
Ah, vous appelez ça comme ça?
Oui, mais puis il m'a dit ça, et puis j'ai dit...
Les bourses.
Je dis à mon équipe, on va arrêter de filmer. Et puis la personne qui fait signer l'autorisation est sortie comme une balle des buissons. Et il est arrivé. Et là, le type, il a vu rouge, quoi. Il a commencé à shooter tout le monde. Et puis il a demandé les bandes. Et bon, il en a pris une, comme il y avait trois caméras, ouais, il en restait deux. Donc... Mais il n'était pas content. Quoi.
Et vous l'avez jamais diffusé, puisqu'il n'a jamais signé l'autorisation?
Non.
Vous l'avez diffusé?
Non, on l'a jamais diffusé. Non.
Jamais?
Non.
Et c'était donc de l'argent clairement illégal.
Ah bah oui, il faisait un aller-retour depuis la Suisse vers la Belgique.
C'est ça. Encore la Suisse,
ouais. Ça n'arrête pas. Moi, c'est surtout la charcuterie, mais oui, c'est vrai que pareil, qu'il y a des gens qui planquent aussi de l'argent, je sais pas.
Dans des
contrefaçons, saucissons, pognon. Ouais.
Que lui a dit sa maman quand elle a su qu'il était nommé pour les Césars?
Enfin, il était un diplôme.
Non.
Bravo.
Tu vas pas l'avoir.
C'était pour l'arnaqueur, hein, c'est ça. Non. Non, elle lui a dit une phrase, mais si vous trouvez, c'est un truc de...
N'oublie pas de remercier ta mère.
Alors, non.
Je peux venir?
Non plus.
N'oublie pas d'y aller.
Non.
C'est sur elle?
Soit à l'heure.
Pas sur elle.
Non.
C'est pas sur elle.
Il y a un rapport avec
la
fête.
Elle sait qu'il est nommé au César.
T'es sûr qu'ils se sont pas trompés?
Alors, c'est elle qui se trompe dans la phrase qu'elle a dite. Ah. C'est génial.
Les Oscars.
Tu vas
aux Oscars, tu vas à Hollywood ou tu vas à un truc ou... Non.
Non,
au festival de Cannes.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
C'est génial, tu vas à Cannes.
Ouais,
c'est ça.
C'est mignon. Ben ouais, dans ma famille, on fait un peu une soupe avec tout, avec les Oscars, les Césars, Cannes. Tout ça.
Mais c'est la même chose, au final.
La grande fête du cinéma.
Voilà, c'est ça.
Puisque le film est sur les rapports de fierté entre enfants et parents, justement, quel rapport vous avez avec vos parents sur votre réussite, votre carrière?
Non, je pense qu'ils sont contents pour moi, mais voilà, ça.
Ah, non, je pense qu'ils sont contents. Vous devez le savoir quand même s'ils sont contents ou pas.
Oui, mais moi, ma mère, elle a toujours peur pour moi, quoi. Elle croit toujours que je me fais engloutir dans ce milieu de requins et chaque fois, je lui dis, t'inquiète pas, c'est moi le patron.
Qui sont Roland et Daniel?
Ces chiens.
Des chiens, ouais.
Non.
Ces femmes.
Des voisins?
Non.
Des poneys?
Ces femmes? Non.
Un âne? Deux ânes?
Non.
Des chèvres?
Le site belge Jacques et Michel?
Non.
Roland
non.
et Daniel? C'est Roland. Deux deuxièmes prénoms, des grands-pères?
Non,
c'est
voisins. Roland et Daniel sont deux.
Des animaux?
Deux
des
êtres copains. Vivants qui existent.
Des animaux? Des plantes?
Non. Alors copains,
des poissons?
Oui. Roland et Daniel sont amis?
Des poissons, c'est des poissons.
Non.
Rouges. Mais c'est un animal.
Roland et Daniel.
C'était quel chien, moi?
C'est un être humain, c'est un animal, c'est du règne animal.
Ses voisins ?
Non. Les inséparables, les oiseaux ? Non.
Non, mais ce sont, des vrais potes.
Bah d'école avec qui il part en vacances.
Non.
Non. C'est César.
Non. C'est César. Mais qui donne des noms à ses trophées.
Bah oui.
Roland et Daniel. Tu trouves pas ?
Non.
Ok, bah c'est d'elle. Qui sont Roland et Daniel ?
Ben Daniel c'est Benoît Poulvort et Roland c'est moi.
Ouais. C'est vrai que c'était immédiat. Ouais. Bah oui, on est.
C'est vrai que j'ai pas pensé comme un con. Là. C'était évident.
Non, parce que non, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous vous appelez,
Daniel.
Oui, vous vous appelez
Daniel.
C'est-à-dire que si vous appelez Benoît. Il s'appelle Daniel, c'est ça ?
Ouais.
Si vous si Dan, quand vous l'appelez, vous dites salut Dan.
Ouais.
Et il sait c'est que c'est vous, il dit salut Roland.
Ouais, ouais.
Et dans votre répertoire, il est à Daniel ou pas, votre Benoît Poulvord ?
Non, il est à Ben 6. C'est son sixième téléphone.
Mais c'est d'autant plus nul que c'est pas très loin, tu vois. Dan, Ben, c'est pas dingue.
Oui,
tu
mais vois ce que je dis... quel intérêt, pardon.
C'est ça. Non, mais c'est mais... ça. C'est pas de donner. C'est pas Jocelyn. Il y a pas un truc rigolo. C'est vraiment genre.
Ouais,
Dan,
c'est
Ben.
Pas c'est sorti comme ça. Enfin, c'est des prénoms qui sont pas spécialement marrants. C'est commun. C'est-à-dire que.
Mais Benoît, c'est tellement proche en plus. Tu vois,
non, mais pourquoi ne pas l'appeler par son prénom ?
Parce que Dan, on rentre directement dans le. On est deux ouvriers, quoi, en fait. Et donc, notre but, c'est carotter. On va jamais travailler, quoi. Et on a un patron, il s'appelle Jean-Jacques. Et donc, on s'appelle, on parle de la camionnette, on parle du timon, de la remorque, on parle de notre casier, on parle de.
C'est génial.
Et ça dure depuis 10-12 ans.
C'est parti comment ?
On n'est pas, pas fatigué !
Petite sœur.
Le dernier coup de
manger,
fil,
c'est tricher.
Le dernier coup de fil, c'était quand ?
C'était la semaine passée, c'était par rapport à la camionnette. Parce que je... moi, je suis arrivé au boulot lundi matin, la camionnette n'était pas là parce qu'il avait été fait un déménagement. Et que Jean-Jacques était furax, il allait l'appeler. Et que moi, je... Oui, à un moment, je sais plus le défendre, quoi. Je débrouille avec.
Je comprends l'inquiétude de votre maman, sur, oui. Globalement comme ça, avec le recul.
Non, mais c'est vrai que c'est des coups de téléphone qui peuvent durer une heure et demie. Puis quand je raccroche, ma maman me dit ah, qu'est-ce qu'il raconte, moi. Et puis je sais pas moi. Il tourne ou il, je sais pas. On se pose jamais de questions.
Est-ce que surtout celui qui appelait a oublié la raison pour laquelle il appelait au début et vous êtes passé à autre chose.
Ouais, mais c'est souvent même des messages. Il peut me laisser des messages de 5-6 minutes. Pour un problème d'outils ou un problème.
On a presque envie de l'appeler Daniel.
Très bien. Donc mercredi.
Et c'est toujours très sérieux en fait.
Oui, je vois.
C'est toujours super concerné. Ouais, Daniel. Oui,
Daniel. C'est une performance, c'est incroyable. C'est incroyable génial. Que ça dure depuis si longtemps. Ouais. C'est qu'on ne l'adresse pas.
La performance, c'est que chacun, j'imagine, cherche à surprendre l'autre par ce qu'il raconte et qu'aucun des deux n'est déstabilisé. Il n'y a jamais un fou rire.
Ah non,
jamais
il y a une compta maintenant à la boîte.
J'ai jamais être montré d'être déstabilisé. Plutôt le faire comme si on faisait quelque chose en même temps, quoi.
Ouais, détaché.
Ouais, complètement détaché.
En fait, vous jouez.
Et très concerné.
C'est génial.
Et puis on rentre dans les tout petits détails, quoi.
Inutile.
Ouais, c'est ça.
Donc ce film, Fourmi. Tout à l'heure, on disait que Malome Paquin, donc le jeune qui s'appelle, qui est surnommé Fourmi, joueur de foot, prenait tout comme étant responsable, en tout cas, de l'avenir ou du bonheur des autres. Vous l'avez vécu. Vous le vivez cette histoire comment, vous ? Comme justement un rapport particulier d'un enfant avec ses parents ou comme une banlieue désœuvrée ? Comment s'en sortir ? Comment s'échapper de là ? Parce que plusieurs fois d'ailleurs dans le film, vous dites hein, il faut partir, il ne faut pas rester là, il n'y a plus rien, il y a du désœuvrement, il n'y a pas de boulot, tout ferme.
Mais moi, en fait, quand j'ai lu le scénario, j'avais un peu peur de... Enfin, l'intérêt pour moi était d'essayer d'humaniser le personnage parce que c'est vrai que. Un père qui se conduit comme ça avec son fils, ça peut faire mal. On peut inconsciemment lui en vouloir. Et puis enfin, le fait qu'il picole, le fait qu'il se batte, il retourne habiter chez sa mère, il a plus de boulot.
Sa grand-tante.
Voilà. J'en ai chez sa grand-tante, pardon.
Alors, attention. Il ne lève jamais la main sur son fils, hein, je le précise. Parce que mais vous avez dit, il boit, il se bat, c'est jamais avec son fils.
Oui, c'est un bagarreur, mais surtout pas avec son
de
fils.
De bistrot, quoi, c'est ça. C'est voilà, un bagarreur.
Et
de
match de foot, en fait. Il vient le voir jouer au foot et il supporte pas que l'arbitre ne siffle pas. Donc là, il est capable d'aller mettre
faute,
une pêche.
Il y a pénalty.
Et puis là, le sentiment, c'est ce qu'on a tous connu et que je connais aujourd'hui aussi, c'est le sentiment de. un moment de gêne, quoi. Ouais. Je me rappelle la quand honte, j'étais petit, ouais. Quand j'avais son âge, genre quand j'allais au foot, il y avait parfois mon père et mon grand-père qui venaient. J'étais gêné, quoi. et aujourd'hui, j'ai la même chose avec mes enfants, quoi. Ils sont gênés de moi, quoi. Et pourtant, j'ai l'impression d'être cool. Et en fait, non, pas du tout.
Non, mais aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. On sait bien aussi qu'il y a des enfants où c'est la honte que les parents déposent devant la porte de l'école et laisse-moi à l'ongle, j'y vais à pied. Enfin, voilà, quoi. C'est...
Ouais, mais je me rappelle quand j'étais petit, ma mère avait reçu une voiture en prêt du garage. Et c'était une... je peux pas citer la marque.
Bah si, t'as dit Mercedes, maintenant, vas-y. Ouais,
c'était une Mitsubishi Lancelle crème, avec des ailerons et tout. Et elle était venue me chercher devant le collège, et elle s'était mise au milieu, elle accélérait. J'arrivais, j'ai fait demi-tour, et j'étais furieux, quoi.
Mais c'est horrible quand t'es enfant, c'est horrible.
Bah,
c'est
oui,
horrible.
Parce que tu sais pas expliquer à tout le monde que c'était une blague. Ouais. Donc tu te dis quand même, il y en a deux, trois qui vont se dire, c'est vraiment...
Non, c'est le problème du regard des autres. Ouais. Mais c'est vrai que quoi, Léla ?
Mais non, je sais pas, je vois les scènes un peu gênantes, mais je me serais jamais autorisée à dire à mes parents que c'est gênant ou à les... Enfin, parce que je pense que ça aurait bardé en retour. Quoi.
Non, mais c'est pas ça. Mais tu dis, tu fais comment ? Tu dis, attends-moi plus loin.
Laisse-moi là.
Non, je pense que ma mère m'aurait répondu déjà, estime-toi heureuse que je viens de te chercher. Donc, tu vois, commence pas à négocier.
C'est vrai. Bah oui, non, je sais, mais en plus, c'est vrai que c'est extrêmement délicat. Parce que mon père, quand il nous conduisait le matin, il rentrait dans le collège avec la voiture. Mais là, j'avais que j'étais déjà prêt à sortir de la voiture, mais 30 secondes, hop, j'étais parti. Et c'est là que j'aurais pas osé lui dire, laisse-nous devant l'entrée, parce que c'est.
Papa, t'as écrasé c'était trois enfants dans la cour de récré, s'il te plaît. Laisse-nous dehors. Bon, revenons à ce gamin qui est fou de foot, qui a un poster de Griezmann dans sa chambre,
qui ressemble un peu.
Oui. Et d'ailleurs, la vanne est faite aussi, puisque quand il y a le recruteur, merci, d'Arsenal qui vient le voir jouer. En effet, il voit que Fourmi joue extrêmement bien, mais il lui dit, ça va pas être possible parce que tu es trop petit. Et là, de tac au tac, il lui répond, mais si. Et petit. Griezmann est petit. Et d'ailleurs, Griezmann lui-même avait été refusé dans différents centres de formation parce que justement, il était trop petit.
Même Maradona est petit aussi.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça, on est dans une autre génération là. Ouais. Mais c'est vrai, Maradona aussi, il n'était pas très grand. C'est pour ça qu'il mettait la main pour faire des têtes. Ouais, parce qu'il arrivait pas à attraper le ballon.
Gagner quelques centimètres.
C'est ça. Mais en tout cas, bon, il essaye de se défendre et le recruteur d'Arsenal lui dit, je sais, tous les petits me disent ça, tous les petits prennent Messi et Griezmann en exemple, mais il faut grandir, et c'est l'un des points de départ du refus d'abord de ce recruteur, et après du début du mensonge.
Et puis il faut grandir, et c'est pas simplement en taille, il faut grandir aussi différemment, et c'est là où le film est très très beau, c'est le roman d'apprentissage de ce petit garçon. Il va aussi essayer, en essayant de faire plaisir à son père, de grandir d'une autre façon, et finalement les qualités d'un joueur, c'est le physique, mais c'est aussi le regard qu'on porte sur l'équipe et ce qui nous entoure, en fait, le collectif.
Ouais, mais c'est vrai que le football, c'est un prétexte ici, évidemment, dans le film, mais c'est un milieu où...
Bah, c'est un prétexte, pardon. Il n'y a pas beaucoup d'occasions à 12 ans de trouver un job qui peut rapporter des millions et à l'enfant et aux parents. Or là, on ne sait pas trop d'ailleurs si c'est la réalisation du bonheur de l'enfant qui compte ou si c'est la sortie de la noirceur sociale pour le père. Voilà. Non, mais donc c'est là où il y a aussi une ambiguïté et une suspicion même de Ludivine Sagné et de la maman en disant mais pourquoi j'étais pas au courant, qu'est-ce qui se passe, c'est lui qui veut en profiter, pas moi. Enfin voilà.
Ah oui, il est dépassé par l'ampleur de son.
Les enfants sont. Il y a aussi un côté poule aux œufs d'or. Il faut d'ailleurs faire très attention. Et j'espère que les éducateurs dans le monde du football font attention à ça parce qu'il y a plein de parents qui voient évidemment leur enfant naturellement, parce qu'avec les yeux de l'amour, comme étant le meilleur joueur du monde à 10, 11 ans. Mais on peut se demander aussi s'ils n'ont pas des calculs derrière tout ça.
Évidemment, ouais.
Et rappeler aussi, c'est dit dans le film, que c'est un pourcentage infime de ceux qui rentrent 5%. Au centre de formation qui font carrière.
Et c'est vrai que tous les petits enfants qui jouent au foot s'imaginent tous être des futurs stars, quoi. Et puis chacun, enfin, pour avoir joué au foot quand j'étais petit aussi, à un moment on se rend compte par soi-même.
Dans les scènes où ça joue au foot, ça se voit pas que vous aviez joué au foot quand vous étiez petit.
Pas gardien de but.
Il jouait pas gardien. Il joue
beaucoup
mieux.
Depuis longtemps.
Malone joue beaucoup mieux que vous.
Rien à voir. En plus, il joue bien. C'est énorme qu'il soit aussi bon comédien, aussi bon joueur de foot parce que les images de foot sont vachement crédibles, quoi. Ah, c'est vrai que tous les petits enfants, comme Malhomme dans le film, se projettent champion du monde de foot. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on n'est déjà pas le meilleur joueur de l'équipe, qui n'est déjà pas dans la meilleure division, qui n'est déjà pas dans la... Puis, à un moment, on se rend compte qu'il n'y a aucune chance. Hein. C'est des petites guerres qu'on perd tout seul dans sa tête. Donc,
Alors, ce film s'appelle Fourmi. Fourmi étant le surnom donné à ce garçon. Et puis, il y a justement une scène extrêmement bouleversante où vous êtes tous les deux avec Théo Malone, donc qui l'interprète. Et vous, lui, il aime pas trop ce surnom Fourmi, et vous l'expliquez à quel point c'est beau, c'est fort, parce que cet animal est un animal qui joue collectif.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est les fourmis d'Amérique du Sud, quoi. En fait, quand il y a des ouragans ou
des tempêtes,
ben elles se donnent toute la main, entre guillemets, et elles forment un immense radeau, et personne ne coule, quoi. Et lui, c'est ça qu'il essaie de faire, quoi.
Ouais, non, c'est joli, c'est joli. C'est un très, très, très beau film qu'on peut voir en famille. Ouais. Ça tombe bien, la semaine de la rentrée, ça peut aérer les esprits.
Oui, n'allez pas à l'école, les gamins, allez voir le film.
Et avec une très belle musique de film aussi, parce que quand, dans des films comme ça, où il y a des moments vraiment d'émotion, je trouve que la musique, elle vous porte, elle vous entraîne vers les larmes. Ouais.
Tout ça signé Martin Rapneau. Il y a une chanson qui revient souvent. Parce qu'il va apprendre l'anglais, évidemment.
Ouais.
Ce qui est vachement bien, c'est qu'on a l'impression qu'elle a toujours existé, cette chanson.
Ouais, ouais,
on a l'impression que ça fait partie des...
C'est apprendre en s'amusant.
Des CD, voilà, des CD d'enfants, comme ça, avec apprendre l'alphabet aussi en anglais. Ouais. Et c'est une création de Martin Rapneau. On va continuer de parler de ce film de Julien Rapneau, Fourmi, porté par François Damiens, Malone Paquin, André Dussolier, Ludivine Sagné, Laetitia Doche, entre autres. Mais d'abord, voici Tom Villa, qui a et les questions et les réponses.
Alors François Damiens, bonjour.
Bonjour.
Oui. Alors bonsoir. nous sommes très heureux de vous recevoir dans la bande originale. Hein.
Merci infiniment. Je suis extrêmement flatté, honoré de.
Oui, vous êtes honoré de quoi?
Mais avant tout déçu aussi.
Ah oui, je comprends. Mais pourquoi?
Toi tu es payé, moi pas. Hein.
Oui, alors on va pas remettre ça sur le tapis, hein, tout est relatif. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai perdu le fil.
Ça va aller mieux avec le texte.
Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Alors ça y est, j'ai retrouvé mes petits, comme disait Emile Louis. François, vous connaissez le monsieur là-bas?
Monsieur le ministre de la Culture.
Perdu, c'est Nagui. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on l'appelle à France 2.
Petit monsieur.
Oui, c'est son surnom à France Inter.
Coucou, petite perruche.
Non, alors petite perruche, j'ai peut-être un petit peu trop familier. D'où ça sort ce surnom?
Mais on se connaissait, on s'était croisés sur une croisière échangiste.
Ça m'étonne pas. Il adore les bateaux et... Alors, on va bien évidemment parler du film, mais avant, j'aimerais évoquer avec vous l'actualité du moment. Qu'est-ce que ça vous fait de voir comme ça la forêt amazonienne partir en fumée?
Il est où le problème?
Oh, bah le problème, c'est pour faire pousser du soja pour des bœufs aux hormones, on est en train de massacrer le poumon de la Terre. Je pensais peut-être que vous étiez sensible aux problèmes écologiques.
J'adore les autoroutes, les pompes à essence.
D'accord, mais quand on voit l'état de la planète, ça pourrait peut-être vous faire changer d'avis, non?
Je compte pas m'acheter des kickers, fumer des cigarettes roulées, me laisser pousser les cheveux.
Ouais, mais bon, il y a peut-être un palier à vendre. Et le fait que ça soit un président d'extrême droite qui soit à la tête du Brésil, ça vous fait rien?
Pour moi, il n'y a que les uniformes et la Légion d'honneur, et les militaires, et les forces de l'ordre.
Oui, enfin, il a quand même été très très limite vis-à-vis de la France en insultant notre président, non?
Le français est un pauvre.
Écoutez, François Damiens, on vous laisse libre de votre position, mais enfin bon, c'est quand même c'est limite quand même.
C'est enregistré, là, tout ce qu'on raconte ici.
Oui, enfin, non, pas du tout, non, c'est pas enregistré, non. C'est pas...
Je te fasse un lombric sur le pubis?
Quoi?
Un lombric?
Faudrait que je te fasse un lombric sur le pubis?
Non mais là ça devient gênant, j'ai oublié ce que je viens d'entendre. On va parler de votre film, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on aille voir Fourmi?
Moi je serai entièrement dénudé, j'espère que ça ne dérange personne.
Ouais, un autre argument peut-être?
Mais je suis entièrement épilé.
Oui, alors voilà, là ça donne envie, bravo. François Damiens, merci. La prochaine fois on évitera de parler d'actu. Une dernière chose à ajouter peut-être?
Je voulais savoir si aujourd'hui je pouvais finir une heure plus tôt.
Ben non, parce que c'est le principe de l'émission. En tout cas, n'oubliez jamais que vous aurez beau dire des choses intelligentes, moi je vous ferai toujours dire n'importe quoi.
Merci
La bande originale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve Tom Villa en spectacle bientôt. Le titre du spectacle, c'est Les Nommaissons. Bah oui. En octobre, en tournée dans toute la France. Et à partir du 8 janvier, ce sera à Paris, au République.
Ah, Les Nommaissons. C'est pour ça que t'es en smoking.
C'est une cérémonie de remise de prix.
D'accord. Très bien.
Chouette.
Malone Paquin. On dit souvent que jouer avec un enfant, c'est ce qu'il y a de plus difficile au cinéma parce qu'ils ont une sincérité qui...
Bah ça, les chiens.
Ouais,
c'est ça. Et les rats. Une sincérité qui n'est pas facile à retrouver, égalée. C'est vrai, vous l'avez ressenti vous aussi?
Mais ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé quelques fois. En fait, il faut être tout le temps bon entre guillemets parce que on va souvent prendre la prise de l'enfant ou
qui ça a réussi. Pour lui, ouais.
Voilà. Mais ici, en l'occurrence, sur ce film Fourmi, Malhomme était très à l'aise en fait, et très très naturel et c'était tout à fait entre guillemets facile de le faire de jouer avec lui. C'était ouais. Même parfois plus facile qu'avec certains acteurs professionnels.
Il est, que l'on ne citera pas, il est. Non, mais il est charmant en plus. Il a un côté.
Ouais, il est rigolo, il a plein d'humour, il est. Enfin, il est naturel. J'ai l'impression que j'étais. Enfin, on avait une vraie complicité, comme si j'étais son vrai père. Et ses parents étaient souvent sur le tournage et c'est des gens tout à fait normaux et qui ont pas porté leur fils vers ce dont on discutait tout à l'heure. Ils n'essaient pas de vivre à travers leur fils ou de réussir là où leur fils a...
Et pourtant, alors là, dans le film, il est porteur d'espoir et c'est lui qui cherche à redonner de l'espoir à tout le monde. Ça fonctionne comme ça. Ouais. C'est sa manière de faire et c'est ça qui est extrêmement émouvant parce que c'est lui le moteur du film.
Et ça doit être d'autant plus émouvant de jouer un papa quand on est soi-même un papa dans la vie.
Ouais, c'est particulier. Mais heureusement, c'est pas un vrai rôle de composition.
Ouais, bien sûr. Mais bon, le rapport père-fils, la transmission à l'envers, en fait, c'est aussi des questions qui doivent m'interroger.
C'est de la transmission, quoi.
Ouais.
Ouais, et puis une forme de complicité aussi entre les deux.
Ouais, mais en fait, on jouait plus en entre les scènes que pendant les scènes, presque. Donc, à un moment, quand on jouait pendant les scènes, je disais toujours, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux et penser à ce qu'on se dit. Et aussi, il n'y a rien de pire qu'un acteur qui se regarde jouer, quoi. Et ici, je pense que ça fonctionnait.
Et quelle est la part d'improvisation que laisse Julien Rapneau? Parce qu'en fait, c'est l'adaptation d'un roman graphique qui est devenu ce film. Est-ce que tout est extrêmement écrit, détaillé?
Ouais, c'était très écrit. Et en fait, une fois qu'il avait ce qu'il voulait, il me disait fais une freestyle.
Et il y a quelques freestyles qui ont été gardés?
Ouais, il y a quelques. Mais c'était des petites choses, hein, mais. Qui souvent rajoute un petit quelque chose un peu de naturel, un peu de...
Est-ce que par exemple la vanne de la conduite à droite ou à gauche, fait partie de l'improvisation?
Non, ça l'a été dedans.
Ça l'a été dedans. Ça s'appelle Fourmi, ça sort ce mercredi au cinéma avec, alors c'est aussi surprenant que ça puisse paraître, on pourrait dire Ludivine Sagnier et André Dussolier ont des petits rôles, des rôles importants.
En ce moment, ils ont une mauvaise passe, hein. Ils jouent beaucoup moins bien. Hein.
Par rapport à Malhomme Paquin, qui est de tous les plans, quoi. C'est-à-dire que le film est vraiment sur les...
Ouais, c'est sur lui, hein.
Les frêles épaules, vous êtes très présent également, François, mais sur les frêles épaules de ce Malhomme Paquin.
C'est vrai que André Dussolier, Ludivine Sagnier, Sébastien Chassagne aussi, c'est des super acteurs. Ah ouais, des super acteurs. Ouais. C'est génial de jouer avec eux. La première scène qu'on a dans le café avec André, elle est incroyable, quoi.
André Dussolier, qui est un coach de foot et qui passe son temps à citer des phrases de joueurs de foot à des moments
drôle.
Complètement désopilants.
Il a un look pas possible. Et Ludivine aussi.
Et puis son neveu ou son filleul qui fait des gâteaux et qui
ouais.
prend rien
c'est
en football.
Sébastien Chassagne, ouais.
Tellement,
génial,
tellement
ouais.
drôle. Tellement drôle. Ça sort ce mercredi, ça s'appelle Fourmi, succès annoncé. Tout comme, évidemment, Maria.
Bonjour les amis. Salut, alors moi je vais vous parler d'une petite aventure qui m'est arrivée la semaine passée, jeudi, alors que j'achetais un rideau de douche, parce que oui, nous les stars on est comme vous, parfois on doit acheter un rideau de douche. Je me rends compte à la caisse que j'ai oublié ma carte de fidélité et je demande donc à la vendeuse, est-ce que vous pouvez retrouver ma carte si je vous donne mon nom? Et elle de me répondre, non, faut le numéro de téléphone. Et donc malheureusement, on est en train de se diriger sur une énième chronique où je vais vous dire que les gens en France sont désagréables et à la fois vous produisez énormément de trous du cul, vous le cherchez un petit peu. Ça et les fromages, on peut pas vous enlever votre patrimoine. J'aimerais vous dire, cette semaine, je voulais vous parler de la joie de vivre à Paris, mais ça ne fait pas partie de vos AOC. Donc cette dame, qui n'est pas la seule, qui est représentative de plein de gens à Paris, c'est des gens, tu commences la conversation... Et la première phrase, t'es déjà en embrouille. Je pense qu'elle se souvient de trucs que j'ai oubliés. Je l'ai vexée dans une autre vie. Je lui devais de la thune quand j'étais pharaon. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est sûr. Je prends le train de la dispute en route. À propos de quoi, je sais pas, mais on a un passif, c'est sûr, quoi. Et ce qui est très emmerdant, c'est que je me suis faite un peu contaminer. Ah. Bon, ici, depuis quelque temps, parfois, on me pose une question et le premier mot de la réponse, c'est « eh ben... » c'est bien si tu peux être outré des bras aussi. Tu sais, quand tu le dis, il faut avoir une espèce de goéland outré, « eh ben... » comme ça. Et ça a l'air anodin parce que c'est un petit mot « bas ». Mais c'est, en fait, c'est hyper agressif. Parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de soupçon omniprésent. Toi, t'es candide, tu poses une question, tu vois. Et en face, on te soupçonne déjà d'être mal intentionné et de faire exprès de poser une question débile. C'est hyper violent comme niveau de parano. Alors, attention, parfois, il y a des gens qui posent des questions.
Ça peut être insultant, c'est vrai.
Mais oui. Ouais. Mais alors, après, il y a des gens qui, intentionnellement, posent des questions bêtes. Moi, fréquemment, je dis, à mon mari. C'est une très mauvaise habitude que j'espère perdre, mais de temps en temps, il se fait intentionnellement passer pour une truffe, je le sais. Parce que ça peut jouer en ta faveur qu'on te prenne pour un abruti. Moi, je crois que c'est une dynamique que je vois souvent, surtout chez, dans les hommes, dans les couples hétéros. C'est une tactique qui consiste pour l'homme à se faire passer pour un petit peu, un peu un demeuré. Comme ça, tu finis par dire, ah, arrête, tu vas le faire mal, je vais le faire moi, tu m'énerves. tu l'envoies acheter, je sais pas, de la dinde, je sais pas quand, il revient une heure plus tard d'une animalerie avec une colombe vivante, comme ça, t'es là, mais quoi? Je sais pas si c'était pour ce soir, je me suis dit comme ça reste frais. Bon bah, c'est sûr que plus personne l'envoie faire des courses de sa vie, tu vois.
Gagner.
La majeure partie du temps, quand on te pose une question, cela dit, on fait pas exprès d'être débile, on a vraiment pas une information, et on se dit, cette astuce de langage qu'est la question permettrait peut-être de faire circuler cette information de manière fluide. Et au lieu de ça, je dis, tu sais pas. Non, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase, c'est une question. Après, je pense que ça dépend des tempéraments, le tu vois. Si t'as une haute tolérance au conflit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui commence à dire, ça te motive, tu rétorques un peu fort, tu vois, vous mettez sur la gueule, mais ça fait partie du truc, tu vois. Mais moi, si tu me dis, mais ça me nique ma journée. Mais même si t'es là, tu tiens ta caisse au BHV, j'ai envie de dire, viens, on s'en fout, lâche tout, Muriel. Reprenez la caisse, Jocelyne, et nous, on va prendre un verre. On s'explique, c'est désastreux ce qui nous arrive, vraiment, quoi. 3 milliards d'années d'évolution pour se parler comme deux abrutis, c'est pas possible. Parce que la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a une chance sur des trilliards qu'on soit là, chacun de nous, ok? Donc, une chance sur des trilliards que j'existe et que la dame du BHV existe. Et à ça, faut rajouter la possibilité que je la rencontre ce jour-là, à cet endroit. C'est un miracle de statistique. Et cette probabilité-là, tu choisis de l'utiliser pour que la première chose que tu vas me dire, c'est non, vaut mieux que ça, les amis. Vaut mieux que ça.
C'est fini,
Marina. Bah oui. La bande originale,
Nagui, sur France Inter. Merci. On va parler de la musique, non plus maintenant de Fourmi. On va revenir sur la BO de ce film, mais la musique dans la vie de François Damiens, qui est aux côtés de Malone Paquin dans Fourmi, qui sort ce mercredi. Vous écoutiez dans les années 70.
Moi, le gentil dauphin. Je n'y suis pour rien, je ne suis pas méchant, tu le sais bien.
Si est-ce que votre frère vous a dit qu'il y avait des requins à Port-Cros aussi?
Non.
Avec des rats, il n'y avait pas de requins. D'accord. Le gentil dauphin triste. Gérard Normand, quand vous entendez cette chanson, vous pensez à quoi exactement, à votre enfance?
En fait, ma sœur avait un petit pick-up rouge comme le tapis. Et elle avait le disque, elle avait qu'un disque. Et j'aimais bien, à un moment, il monte sur sa moto. J'adorais les motos, j'ai dit. Je levais le truc, je le remettais tout le temps à cet endroit-là, quoi.
Qui monte sur la moto? C'est le dauphin qui fait la moto?
Dans les paroles,
c'est pas pratique.
Ouais, toi, le gentil dauphin qui n'est comme moi. Tu montes sur ta moto, à un moment, il dit.
On est sûr de ça?
Voilà. Joli. C'est du calage, ça. On l'a comme ça.
Il avait qu'un disque, donc on la connaît.
73, c'est la naissance du petit emmerdeur. C'est comme ça que vous surnommez votre grand-mère, je crois.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'était votre petit nom doux.
Ouais, elle m'appelait mon petit emmerdeur.
C'était pas fourmi, c'était petit emmerdeur.
Ouais. Parce qu'apparemment, il n'y en avait pas une que vous loupiez.
Bah, c'est vrai que j'ai toujours. C'était jamais méchant, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé, entre guillemets, emmerder le monde, quoi.
Ouais, c'était. Ouais. Et la spécialité, c'était la disparition aussi. C'était de disparaître, de ne pas vous retrouver.
Ouais, un jour, on m'a retrouvé.
J'ai lu ça. Dites-nous, ouais.
Mais j'étais parti au supermarché avec ma mère. Et puis, bon, moi, dès que j'arrivais dans le supermarché, j'aimais bien observer les gens, donc j'allais observer. Et donc, je l'ai perdu. Et puis, je me suis retrouvé dans les réserves du supermarché. Il y avait des caisses de bière. Et je me suis mis à finir les bières, mais j'avais 6-7 ans. Et donc, il y a eu des appels au micro, mais comme j'étais dans la réserve, je n'entendais pas. Et pour finir, ils m'ont retrouvé là, et là, j'ai pris une petite trousse, quoi.
Oui, il y avait de la disparition, puis ça a commencé là aussi, les canulars téléphoniques.
Quand vous étiez gamin?
Dizaine d'années, c'est ça. C'est ça. Vous faisiez passer pour un chausseur, je crois.
Ouais, c'était en Belgique, à un moment, il y a eu une petite crise de l'enseignement, donc on avait des journées de grève. Et donc, ça marche bien, les blagues au téléphone, pendant les jours de semaine, puisque les enfants sont censés être à l'école. Et c'est vrai que je me faisais passer pour le vendeur de chaussures qui habitait à côté de chez moi, qui était super connu dans la région. Et donc j'appelais en disant que le mari avait commandé une paire de Santiac avec des petites talonnettes et qu'il ne venait pas les chercher. Et moi, il y avait quelqu'un qui voulait les racheter. Mais il fallait quand même payer la petite talent qu'on avait mis dessus, quoi.
Est-ce que tout ça vous le
voulez? Et donc ils appelaient au bureau, quoi, le mari, pour dire il paraît que t'as acheté des soundchecks en propos. Hein.
Mais vous enregistriez ça ou c'était?
Non, c'était enregistré, ouais.
Ah, c'était enregistré.
Ouais.
Mais comment vous faisiez pour enregistrer le téléphone?
Mais j'avais un petit enregistreur, je mettais sur le micro du téléphone.
Et en haut-parleur.
Il y avait une petite ventouse même.
Non, non, mais donc ça poussait l'équipement, c'était pas juste.
Ah, non, j'avais un petit matériel.
Et vous le faisiez.
Et puis je le faisais à des gens que je connaissais un petit peu, comme ça j'avais des infos, je connaissais le nom du truc, les enfants, il était venu avec son fils, hein, et je disais, oui. Non, mais je vous reconnais, André, il n'y a pas de problème. Allô, bonjour, madame, excusez-moi de vous déranger. C'est André Van Der Kamp du Godillot, Alan, madame. Et puis j'explique le truc. Oui, André, je vous entends.
Et ces enregistrements, vous les faisiez écouter à qui? Aux parents?
Ah,
aux copains?
Ouais, non, je les faisais, ouais, à des copains, quoi.
Il est fou, ce mec est fou.
Et vous le disiez à un moment que c'était un canular ou?
Non, j'ai jamais dit que c'était.
En 2006, vous écoutiez. Les Floyd. La pochette avec un homme en feu et l'autre qui lui serre la main. Wish You Were Here, j'adore cet album.
Bah ouais.
Il y avait Have a Cigar aussi dessus, qui était le générique du journal de 13h de France Inter, dans les années 70, présenté par Yves Morosi.
Ouais.
Tout le monde s'en fout.
Ouais, c'est...
Mais non.
Non, mais j'essaie de faire un peu la mémoire de Radio France.
Bonjour. Voilà.
Ouais, exactement. Tu peux te caler sur Have a Cigar, s'il te plaît, l'intro de. Comme ça, on va réentendre les infos de 13h. De France Inter quand Mourouzi les présentait à l'époque.
Et on est en 2006, c'est vos débuts au cinéma, François Damiens. OSS 117 avec Michel Hazanavicius. Il y a Dickeneck aussi à cette période. C'est les caméras cachées en fait qui ont commencé à vous faire connaître. Ça a été ça, la méthode pour entrer dans le monde du cinéma.
Oui, j'ai commencé au cinéma avec Michel Hazanavicius parce qu'en fait j'avais piégé Eric et Ramzy. Et c'était Michel qui mettait leur pièce en scène.
En scène, ouais.
Et puis on avait passé toute une nuit à Bruxelles ensemble. Il m'avait rappelé parce qu'après leur spectacle. Et on n'a même pas parlé de cinéma. Et puis il m'a rappelé deux jours après pour me dire je fais OSS 117. Et j'avais un rôle pour toi si tu veux, genre trois jours. Et je lui dis ouais directement. Et puis... et
sans lire. Sans lire, sans savoir quel rôle, sans savoir quoi faire.
Je ne dis pas toujours non plus. J'ai pas le temps.
Et vous n'avez pas appréhendé justement le passage devant une caméra de cinéma en disant voilà, moi je sais faire des canulars, je sais jouer, interpréter des rôles, des personnages que je crée, mais rentrer dans un personnage créé par un metteur en scène ou un réalisateur pour moi, est-ce que ça va fonctionner?
Oui, c'était un peu surprenant. C'est vrai que la première fois que je suis arrivé à Paris pour tourner ce truc, il m'avait donné la loge Nick Nolte.
Ouais.
Ouais. Un truc immense, quoi. Je faisais semblant que je connaissais tout, mais je découvrais tout. Même l'ingénieur du son, je me rappelle, t'as habillé tout en noir avec un bonnet, je me demandais pourquoi. C'était pour les reflets, des trucs.
On sait maintenant que vous êtes un usurpateur. Il y a un jour, vous allez vous faire attraper ou pas?
Pardon?
Il y a un jour, vous allez vous faire attraper.
Ben, à mon avis, je vais en découvrir. Je suis pas acteur.
C'est pour ça que votre maman est inquiète, en fait.
Je me rends compte que c'est du bois de rallonge.
Sur l'album des Pink Floyd, Wish You Were Here, il y avait donc le générique des infos qui était en 77, je pense, présenté sur Inter. Imaginez donc, on est en 77, et on disait France Inter, il est 13h. Ah ouais, ça commençait bien. Mais déjà à l'époque, il y avait un petit décalage.
Ah ouais, c'était ça. Génial.
Et là, t'avais Mourouzi, il disait bonjour. Au sommaire de l'actualité, machin.
C'est vrai, c'est hyper rock.
Ah, très rock. Et on gardait la musique en tapis, comme ça, sous les infos.
Ouais, sous les titres et tout ça.
C'est-à-dire qu'on pouvait annoncer des trucs terribles avec cette musique.
Ouais.
Bah, c'est terrible, mais c'est ce qu'on va faire.
Ah ouais.
Ça allait jusque là. Ça, je me souviens de ce passage-là. Ça passait. C'était fou.
Ouais, c'est bien.
Ouais, c'est vachement bien. Have a cigar.
Elle s'appelait comment, la co-présentatrice encore?
Non, c'était le journal
sur la radio.
Okay. C'était pas
Marie-Laure Roguier.
Ah, ok, d'accord.
Ça, c'est dans les années 80, mais 77, 78, c'était.
Ah, parce que j'imaginais mal ça à la télé.
Ouais.
En 2014, vous écoutiez, évidemment.
Je ne m'enfuis pas, je vole.
Bah ouais, encore à pleurer.
Comprenez
hein.
Bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole.
La famille Bélier.
Je vole.
Ça vous va bien les rôles de parents?
De papa,
elle
ouais.
Je sais pas, j'espère.
Vous avez une tête de pension alimentaire?
Non, la famille Bélier, c'est ce carton qu'on connaît d'Éric Lartigot. Plus de plus de 7 millions de spectateurs, je crois. C'est un... Là, pour le coup, si les Français vous connaissez pas, là, c'est... ça y est, c'est fait.
Ouais, c'était rigolo, je me rappelle, c'était un dimanche après-midi, quand ils ont mis la bande-annonce en ligne. Je ne suis pas au courant, en général, de ça. Et Eric Lartigot m'avait appelé pour me dire, on l'a mis en ligne. Puis une heure après, il y a 500 000 personnes qui l'ont vu. Puis une heure après, je vais regarder 1 million, puis 2, puis 3, puis...
C'était... Juste la bande-annonce.
Ouais, mais c'est chiffré en dizaines de millions. Et le premier jour, c'était étonnant. Quoi. On s'est dit, enfin, comment ça se fait que... Évidemment, on n'imagine jamais immédiat. Quand on fait un film que ça va faire un succès. Quoi. Mais là, ça a démarré d'entrée de jeu. Quoi.
Et la notoriété, elle a grimpé en flèche aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, n'importe où, on vous reconnaît. Mais on vous reconnaît massivement.
Ouais, bah, ouais. Bon, on m'a toujours reconnu. Non, mais c'est vrai que c'était. Ouais,
Il y a eu un sursaut, j'imagine. Ouais. Déjà qu'on vous connaissait beaucoup, mais là, vous racontiez dans une interview une scène où vous entrez dans un petit lit, un petit village de
Ah ouais, non, à la poste.
À la poste. Non, un petit lit, non. À la poste.
Ah ouais,
un petit
lit. Mais comme vous pouvez le voir, moi, je suis pas quelqu'un du matin. Je suis le matin.
Il est 11h50.
Hein, ouais, même. Et c'est vrai que je devais absolument aller à la poste chercher un recommandé. Et je suis arrivé dans la poste près de chez moi, alors que d'habitude près de chez moi il se passe pas grand chose. Et là tout le monde s'est retourné, il y avait une dizaine de personnes, ils m'ont applaudi. Oh, je suis retourné, j'ai fait un petit geste de recul et puis je me dis bon, il faut que j'affronte, il faut que j'y aille.
C'est peut-être parce que vous étiez le veto. Parce que vous avez reconnu. Hey, il est debout, regarde.
C'est bien, on retrouve l'une des scènes dans Fourmi. C'est vrai, vous avez du mal à vous lever aussi dans Fourmi. Florence Mignot, merci de venir à ce micro. Florence,
ah oui, merci.
Vous êtes psychologue pour enfants et adolescents. Vous venez de publier au mois d'août dernier aux éditions Larousse « Parents bienveillants, la pleine conscience à l'usage des parents ». Dans le film, le garçon, enfant de divorcé, se donne pour mission de redonner le goût à la vie à son papa. Ça arrive souvent, ça, que les enfants se sentent responsables du bonheur de leurs parents.
Oui, surtout quand le parent va pas bien, mais pour compléter par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, souvent l'enfant il fait tout pour que son parent aille bien, pour qu'en retour son parent tienne la route et s'occupe de lui. Donc c'est pas forcément que pour le bonheur du parent, c'est aussi pour le bonheur de l'enfant.
D'accord, je m'en doutais, c'est toujours, des salauds toujours. Les gars.
Mais un enfant dans une situation divorcée, est-ce qu'un enfant, sa première mission est de rabibocher, papa et maman en disant il faut que le couple se remette ensemble ou pas?
Pas forcément. Non. Après, quand il y a un des parents qui est discrédité, on va dire, ou un peu victimisé, l'enfant a tendance quand même à vouloir prendre parti pour ce parent qui souffre.
Ou celui qui ne s'est pas remarié, ou qui n'est plus en couple. Ou
celui qui est seul, celui qui n'est pas bien. Ouais. L'enfant le ressent, et encore une fois, il a envie que son parent soit bien pour passer des bons moments ensemble.
Et pourtant, un enfant n'est pas responsable du bonheur de ses parents. Comment lui dire, comment lui faire comprendre qu'il n'a pas à porter sur ses petites épaules toute la responsabilité du bonheur de son papa ou de sa maman?
Alors le dire, c'est pas suffisant, c'est le vivre. Ah. C'est-à-dire quand le parent va se sentir vraiment responsable, il aura plus vraiment grand-chose à dire à son enfant, il va le ressentir. Mais si le parent se sent pas bien et se sent perdu, sans repère, l'enfant instinctivement va le sentir, peu importe les mots qu'on va lui dire. On peut pas le baratiner sur... On a envie, évidemment, en tant que parent, en disant « t'es un enfant, vis ta vie d'enfant, sois heureux », mais ça, c'est pas possible. L'enfant, il est connecté directement à son parent.
On a même envie de le protéger des mots MAUX de ce divorce, comme des mots échangés entre les parents aussi. Il faut pas qu'il entende d'engueulade, il faut pas qu'il soit témoin de certaines choses, non, j'imagine.
Bien sûr, mais on peut pas contrôler ça. On aurait envie qu'avec 2-3 phrases, ça fonctionne et que l'enfant souffre plus, mais c'est pas possible. L'enfant, à un moment donné, il souffre, et en tant que parent, on ne peut qu'accueillir sa souffrance.
Est-ce que même si les parents ne disent rien devant les enfants, ou devant l'enfant, l'enfant s'en rend compte? Est-ce qu'il est, il y a une espèce de... il est en Bluetooth, quoi.
Il est en Wi-Fi en permanence, ouais. Il ressent, il est télépathe, il est magicien, oui, bien sûr.
Garçon-fille, oui, c'est ça.
Même un bébé, en fait, ressent.
C'est le lien avec la maman, est-ce qu'il... plus qu'avec le papa? Ou il n'y a pas spécialement de camp?
Non, il n'y a pas forcément de camp. Mais il y a le langage. Nous, les adultes, on a l'impression qu'avec le langage, on peut tout faire passer, etc. L'enfant, lui, il ressent tout avec son corps, avec un petit mouvement de sourcil, une tristesse, la peau qui change, il ressent tout. Donc même un bébé, il est capable de sentir si son parent ne va pas bien.
Donc si deux parents, pas divorcés, pas encore divorcés, s'engueule, l'enfant sait qu'il y a un problème, même s'il ne s'engueule pas devant l'enfant, c'est ça ?
Voilà, parfois il se pose même la question, est-ce que mes parents vont séparer, avant même que les adultes se la posent.
C'est fou, donnez ça. Pas un peu trop de crédit aux enfants, là, parce que moi j'en connais qui sont sacrément cons. Hein.
Non mais c'est vrai que si papa ou maman répond toujours par « bah » en première réponse, ça sent mauvais, quoi, en fait.
Non mais c'est-à-dire que si un enfant demande à l'un des deux est-ce que ça va, ou est-ce que tu aimes toujours maman, ou est-ce que maman tu aimes toujours papa, les parents peuvent prendre ça comme un signal de il a détecté quelque chose qui n'allait pas.
Oui, après les enfants le demandent souvent ça, hein, quand le ton monte, ils ont toujours
peur. Est-ce que vous vous aimez encore? Ah, quand le ton monte, oui, non, oui. Je dis encore une fois, l'enfant est censé être au courant de rien.
C'est ce que nous on veut en tant qu'adultes. On a envie que tout se passe bien, on a envie de parler à l'enfant et qu'il souffre pas, que tout se passe toujours très, très bien. Mais dans la réalité, on est obligé d'entendre à mon esquier.
Alors, revenons à la situation de parents divorcés qu'il y a dans le film Fourmi, où clairement Théo choisit un camp. Est-ce que c'est forcément le cas? Est-ce que les enfants de divorcés choisissent toujours un camp, même si les parents font tout pour une équité, pour une garde partagée, que tout se passe bien? Inconsciemment, l'enfant va quand même choisir un camp?
Pas forcément, il va choisir seulement le parent qui va pas bien. Si vraiment, là dans le cas du film, le parent va pas bien, il est sans repère, il est triste, il tient pas debout, naturellement l'enfant va avoir envie de le sauver. Ça c'est assez fréquent chez les enfants.
Donc il est
mais
plus attiré...
Mais c'est pas en lien avec le divorce, c'est en lien avec le fait qu'un parent n'aille vraiment pas bien.
D'accord, il est pas attiré par au contraire celui qui va bien, celui qui est... pardon, qui dégage des ondes positives à la limite. S'il y en a un qui est toujours souriant et l'autre qui pleure, l'enfant aura tendance à vouloir protéger celui qui pleure.
L'enfant est toujours sauveur quelque part. Même pour nous adultes, quand quelqu'un ne va pas bien, on a tendance à dire bon, allez, je vais faire un petit quelque chose pour qu'il aille mieux.
Ah non, c'est insupportable.
Détrompez-vous, madame.
C'est la mauvaise adresse.
On n'est pas chez Drucker ici. Nous, on n'aime pas les gens.
Au contraire, plus on crie, plus on se réjouit. Dans les rapports familiaux, pas au travail.
Soyez précis, s'il vous plaît, on gagnera du temps.
Et comment décharger, entre guillemets, un enfant de cette responsabilité? Parce que c'est un poids, on le voit même dans le film, il va mentir. Alors c'est même plus un mensonge, tellement ça devient
une machination gigantesque. Parce qu'il rend la ville fière aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le père, c'est que tout d'un coup il se rend compte que finalement dans ce territoire-là où il n'y a pas de boulot, où rien ne va, non seulement il peut sauver un peu son père, mais il permet de faire repeindre le bar de la ville, redonner de l'entrain aux gens. Tout d'un coup il est la lumière, quoi, de cette
justement,
position.
Comment lui faire comprendre qu'il a pas les épaules, quoi. C'est-à-dire que la responsabilité d'un enfant, au-delà du fait qu'il ne faut pas mentir, que c'est pas bien, et ainsi de suite, peu importe, de lui dire ce n'est pas à toi de sauver le monde. Ou alors il faut leur dire c'est à toi de sauver le monde, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bah, plutôt lui montrer qu'on a vu tous les efforts qu'il faisait pour que son papa ou son parent ou la ville aille bien, mais qu'il n'est pas obligé de le faire. Après, si l'enfant a envie de le faire, c'est aussi, des fois dans une situation comme ça de douleur et divorce, c'est aussi des enfants qui vont prendre une confiance énorme, à qui il va arriver plein de belles choses. Plus tard, c'est aussi des enfants qui voudront que leur couple fonctionne. Donc on n'est pas forcément obligé de mettre tout de suite une limite à l'enfant, parce qu'on ne sait pas finalement le cadeau que ce sera pour lui plus tard.
Vous conseilleriez à des parents de divorcer pour le bonheur de leurs enfants?
Message à faire passer, Daniel.
Non, mais c'est important de dire que finalement, c'est pas forcément les conséquences d'un divorce sont pas forcément catastrophiques pour un enfant.
Voilà, sur le coup, évidemment que c'est une souffrance. Oui, hein, oui, on peut pas le nier. Mais après, moi, j'ai travaillé avec des adultes et finalement, adultes, leur rêve, c'était d'avoir un vrai couple, une vraie famille et de sentir ce que c'était que le lien. Et ils ont une famille magnifique.
Est-ce que le fait que, parce que il y a des générations où moi je me suis rendu compte à l'école avec mes enfants où tous les enfants sont des enfants de personnes séparées. Non mais quand j'étais gamin c'était l'inverse. Il y avait un couple divorcé, on disait c'est l'enfant dont les parents sont divorcés. Ouais.
Il y en avait un.
Et maintenant
ça,
c'est l'inverse.
Ses parents, c'est Nagui.
Ses parents sont encore ensemble. Non, mais c'est quand même
le
dingue,
pauvre.
Oui, parce qu'il a pas de téléphone portable. Parce que si t'es enfant de divorcé, t'as le téléphone portable pour parler à l'un ou à l'autre. Mais si t'es pas divorcé, t'as pas le téléphone portable.
Parce qu'on est dans une réalité où on a envie que le couple dure, on est dans quelque chose de très fantasmé, mais historiquement parlant, il n'y a pas forcément eu toujours de l'amour, toujours des couples stables, et les enfants ont toujours grandi aussi. Donc ça n'enlève pas la souffrance que l'enfant vit pendant le divorce, mais ça l'empêche pas de vivre non plus et de grandir.
En tout cas, on n'est plus dans une génération qui se force à rester ensemble
pour
les enfants.
Ça, c'est un choix personnel. Après, il n'y a pas que...
Non, mais si, la question est de savoir, pour le bonheur des enfants, est-ce qu'il
En fait, on peut pas choisir le bonheur d'un enfant.
Répondre à la question de Nagui, c'était assez simple comme question.
Le bonheur, il se délecte pas. C'est-à-dire, l'enfant, lui, dans une situation catastrophique, peut choisir d'être heureux parce qu'il va faire des bonnes rencontres, des bons professeurs, être avec des gens sympathiques à la radio. Il va se sentir aimé. Et en même temps, il peut faire aussi des mauvaises rencontres. Donc, c'est pas le parent qui a le pouvoir de rendre heureux son enfant. Et une fois qu'on a compris ça, déjà, il y a quelque chose qui se déride en nous et qui est un peu plus léger.
Parents bienveillants, vous me permettez de l'offrir à Daniel Morin, il en a besoin. Merci. Chez Larousse, merci beaucoup d'être venu à ce micro. Florence Millot. Tanguy Pastureau, ça va Tanguy?
Ça va et vous?
Très bien, merci. Les principaux dirigeants mondiaux sont des hommes, paraît-il.
Oui, et le problème avec ces enfoirés, c'est que du coup, ils ne pensent qu'au rapport de force, à être viril, puissant, des mâles en rut, ce sont des malades. Il faut donc les piquer un par un et mettre à leur place des femmes, comme le suggère par exemple Ségolène Royal. Alors après, on peut mettre à la tête de l'État une autre femme qu'elle, ouf.
Voilà. Ouais, ou pas. On en parle après les infos. La bande originale avec les Lacs de Boudelli, Marina Rollman,
bonjour,
Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Tom Villa,
bonjour,
Tanguy Pastureau,
bonjour,
et notre invité François Damien. Dans ce film Fourmi, vous êtes dirigé par Julien Rapneau. C'est la première fois que vous travaillez avec lui?
Ouais.
Et
j'espère que c'est pas la dernière.
C'est vrai?
Ah non.
Qu'est-ce que vous avez aimé chez lui?
Mais j'ai adoré sa, d'abord sa gentillesse, puis son, il y a jamais un mot plus haut que l'autre, il est doux, mais à la fois il sait très bien ce qu'il veut, il se fait respecter, mais il est une grande humilité. Donc c'est un vrai plaisir de travailler.
Est-ce que vous aimez proposer des choses aux réalisateurs aussi, ou vous aimez plutôt être une sorte de pâte à modeler et être totalement dirigé?
Non, j'aime bien proposer des choses, et puis j'aime bien exactement comprendre ce que le réalisateur a dans la tête, où il veut nous emmener, quoi. Et après, le trajet pour y aller, ça, on peut le trouver ensemble, mais c'est surtout savoir vers quoi il tend.
Et comment faire dans Fourmi pour pas trop tomber dans le gnangnan, mélo, plein des chars, et pas tomber dans la parodie.
Ça. Et puis jouer quelqu'un qui picole, c'est un peu...
c'est dur.
C'est un peu casse-gueule, parce que on rentre vite dans la caricature. Ouais. Et à la fois, c'est une comédie aussi, donc il faut quand même, un peu, pas en faire des caisses, mais quand même, voilà.
Souligner les traits, ouais.
Voilà, souligner les traits. Et moi, j'avais un peu peur de ça. Donc, chaque fois, c'est vrai que quand je devais faire le mec bourré, je disais, je vais en faire une dernière, si tu me le permets. Mais beaucoup moins fort, pour que tu te retrouves pas au montage avec que de la caricature.
Ouais, c'est ça, faut pas tomber dans le sketch, en fait.
Bah, ouais, c'est. Ouais.
Vous pensez beaucoup montage. Bon idiot, en fait, vous pensez beaucoup montage.
Oui, c'est-à-dire que quand je monte des trucs, moi, parfois, on se retrouve avec un peu de matos.
Il manque quelque chose.
Qu'il y a encore une prise, et elle sera un peu comme ça. Non, et puis après ça, il faut composer. C'est très difficile de savoir ce dont on va avoir besoin précisément au montage. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs...
Et ce qui est bien, c'est que chaque personnage, que ce soit vous, Ludivine Sagnier ou André Dussolier, a aussi une double lecture, c'est-à-dire une sorte de fragilité. Ils sont drôles, ils sont touchants. L'entraîneur de gamins dans une banlieue, on imagine, est quoi, dans les Hauts-de-France, on
ne
sait pas trop où on est, voilà. Du côté de Valence, ou Valenciennes, pardon. Valence, c'était la version initiale, non. Version espagnole.
Du roman graphique.
Du roman graphique. C'est passé à Valence, là, on est à Valenciennes. Mais, ou que ce soit Ludivine Sagnier qui refait sa vie, qui cherche à faire.
Elle est super, je trouve qu'on y croit à fond, quoi. Ça fait vraiment l'ex, quoi, qui est avec son mec
ça
parfait.
Fait l'ex. Ouais.
Ben c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé ensemble. On faisait souvent la même blague, en fait. Sur les tournages, il y a souvent des pots qui s'organisent. Mais maintenant, on peut plus les mettre à la feuille de service pour des questions d'assurance. Donc c'est un peu des trucs qui se disent.
On n'a pas le droit de dire qu'on va boire un coup.
Mais on n'a pas le droit de le mettre à la feuille de service parce que c'est inciter les gens à boire l'alcool.
Mais non, il n'y a pas écrit alcool, il y a marqué.
On n'a plus le droit. Avant, il était marqué pot déco, pot mise en scène, pot.
La feuille de service, c'est le document sur lequel est consigné. À quelle heure se passe quoi? Voilà, tous les événements de la journée, en fait.
Voilà, le cahier de route de la journée du lendemain. Et donc ici avec Ludivine, on faisait une blague, on s'arrangeait pour parler devant quelqu'un d'autre de l'équipe en disant tu vas chez Julien, non je repasse d'abord chez moi avant, je prends une douche, et les gens commencent à tendre l'oreille et puis ils comprennent qu'en fait ils sont pas invités.
C'est vache.
Mais on a fait ça des journées entières.
Voici, bonne ambiance.
Voici Tanguy Passion. Tanguy, donnez-nous des nouvelles de Ségolène Royal.
Eh bien, Nagui, elle va bien. C'est-à-dire qu'elle se prépare pour la présidentielle 2022, comme François Hollande. C'est là qu'on voit que l'écologie progresse, parce que ça va être une grosse opération de recyclage. Un jour, les mecs vont déterrer René Coty, présenter ce qui reste, hein, trois phalanges, un fémur. Et même là, il fera plus que Florian Philippot. Alors, Royal ne se présentera pas sous l'étiquette socialiste. Forcément, des socialistes, il en reste 12, hein, moins que d'ours polaires. Mais a-t-elle dit, en tant que femme, être une femme, voilà son projet politique. Ce qui tombe bien, parce qu'elle est une femme depuis 1953, donc elle s'y connaît. 65 ans de féminité. Je pense qu'on peut zapper le vote et dire à Macron, petit tout, on sait que toi t'es réglo, qu'à l'Elysée tu es le premier depuis la création de la cage à glandus à n'avoir butiné ni actrice ni chanteuse, mais le patriarcat ras-le-bol, tu prends toi axe pour homme, t'es boxeur taille 6, déjà bon, tu te vantes là-dedans, on peut mettre trois bébés kangourous, et tu te casses. Parce qu'avant Macron à l'Elysée, c'était des gonzes à l'ancienne, des satyres qui pouvaient tenir une érection sur 72 heures. Le père de Francky Vincent leur écrivait des lettres pour leur dire « Un jour, je mettrai au monde un gosse qui sera plus chaud que vous et les entiers reviendront dans le game. » Et qui palpait les fesses de Micheline, leur secrétaire, tandis qu'elle ramassait le stylo qu'ils avaient fait tomber. Hein, la pauvre dame disait à une collègue « Je pense que monsieur le président a Parkinson. En deux heures, il a fait tomber 40 stylos plus 12 bloc-notes. » Bref, le projet de madame Royal est de dire « On a encore eu à l'Elysée ni noir ni femme. Pour le premier, le pays n'est pas prêt. Donc testons une femme, en l'occurrence moi. Hein, » puisque dans son monde, il y a elle et autour d'elle une masse grouillante de gens qui sont là pour lui dire qu'ils l'admirent. Hein, quand elle va à la brioche dorée, si le vendeur ne lui dit pas qu'elle a du charisme avant de lui demander ce qu'elle veut, elle défonce la vitrine à coups de tête en criant « D'abord on dit chocolatine, pas pain au chocolat. » Et là, j'ai réfléchi. Mes proches m'ont dit « Tiens, ça te fait une tête bizarre. » J'ai répondu « Oui, mais je suis sur Inter, donc faire semblant de penser, ça fait partie du job. » Je me suis dit « Et si en 2022, on élisait une femme ou un transgenre en cours de transition, histoire d'y aller plus doucement pour les gens, qu'est-ce que ça changerait ?» Je veux dire, moi, par exemple, qui suis un homme, j'ai des poils, parfois je grogne et j'ai des chips dans ma dent creuse. Suis-je vraiment différent de Leïla, qui elle aussi se gratte, et il faut la voir jouer au beer pong? À part notre bagage culturel, elle connaît Pasolini, moi je connais Elisa Tovati. Ouais. Qu'avons-nous de différent? Rien. Si Nagui casse sa pipe, un jour dans les loges de Taratata, un membre du groupe Trio lui aurait fait ingérer un cookie au shit, et que son corps, qui est comme truc le plus fort à assimiler, a eu une fois un iced tea à la pêche, lâche. Qui Laurence Bloch, la patronne, mettra-t-elle à la tête de la bande originale? Leïla, moi, elle hésitera, parce que nous sommes pareils, et finira par se dire « Allez, foutu pour foutu, avec ce qui me coûte déjà, je mets Daniel Morin. » Mais pourquoi Leïla et moi sommes-nous les mêmes? Oui. Au point que quand on me demande un autographe, je signe « Amitié Leïla, fuck de la housse ce bâtard. » Parce que je refuse qu'il y ait une bonne ambiance à France 2, hors de question que je paye la redevance pour que d'autres vivent une super vie.
Parce que vous n'avez pas le pouvoir.
C'est ça, Nagui. Ouais, ouais. Ni moi, ni Leïla l'avons, nous sommes des gueux. Mais ce week-end, Madame Royal a parlé à propos de Trump et de Bolsonaro, là je la cite, de concours de zizi. Hein, sous-entendu, les hommes, dès qu'ils ont le pouvoir, pensent avec leur zizi. Ce qui est très difficile. Hein, moi j'ai tenté d'écrire cette chronique avec ce que pensait le mien, il n'y avait pas une idée valable. Hein, et au moment de taper le texte à l'ordi, un ratage total. Toutes les lettres inversées, j'ai découvert que j'étais dyslexique du pénis. L'orthophoniste a refusé de me voir. Bref, ce que dit Ségolène Royal, c'est que les mecs, de manière naturelle, dès qu'ils ont le pouvoir, pensent avec leur testostérone, les blagues sur Brigitte, les claques dans le dos, G7. Moi, on m'en met une comme ça un jour, je perds un poumon. Un seul Justin Trudeau paraît doux, tendre, avec ses chaussettes comportant 87 couleurs, dont 30 qui n'existent que là. Mais quand je l'ai vu à Biarritz, j'aurais aimé lui dire « Fuis, Justin, tu es trop sensible, ta vraie place est dans un concert d'Étienne Dao. » Mais qui nous dit que le pouvoir ne fera pas la même chose aux femmes? Elles aussi peuvent être grisées, se complaire dans le rapport de force. Regardez Merkel, elle dégage moins de gentillesse qu'un crotal dont on vient d'écraser la sonnette. Ce que je veux dire, c'est qu'être une femme pour Madame Royal, c'est un argument marketing, parce que vous soyez homme, femme, noir, blanc, à la seconde où vous êtes élu, vous entrez dans un système mondial où tous les autres ne veulent qu'une chose de vous, que vous jouiez le jeu. On peut élire un perroquet, Jean-René, hein, c'est comme ça que j'appellerais mon perroquet si j'en avais un, parce que tous les autres s'appellent Jaco. Bon bah ce serait pareil, hein, l'animal finirait par dire au président chinois « Mon pote, avec mes nouveaux droits de douane, je vais te faire cracher ton flouze » et réfléchirait avec son zizi. Ce qui est absurde, puisque les perroquets n'ont pas de zizi. Hein, c'est pour ça que vous ne les
voyez pas sur YouPorn. Ou alors, il faudrait que d'un coup, tous les pays soient dirigés par des femmes. Moi, je suis pour, je veux des femmes partout. François Damiens s'invitait. J'étais contre. J'ai dit, prenez une femme. Une actrice qui, grâce au coup de pouce qu'on lui donne, pourrait se faire un réseau. Léa Seydoux, par exemple. Bref, Madame Royale est super, mais avoir comme projet être une femme, ça va être juste. Il lui reste 3 ans pour bosser.
Ouais, il faut un programme. Ouais, c'est ça.
La bande originale. Lundi. Sur France Inter.
Merci Tanguy Pastureau.
Et qu'on retrouve le 29 septembre à Aunay-le-Château, c'est à côté de Rodez, sur Seine.
Et oui.
C'est un dimanche.
C'est un vendredi soir, je crois.
Le 29 septembre
oui. Je ne sais pas, ne me demandez pas.
Il nous faudra un petit calendrier. Qui a un calendrier? Bon, alors c'est peut-être un dimanche.
C'est un dimanche, il me semble.
D'accord.
Nous allons à nouveau avoir une interro, mais cette fois-ci, vous avez François Damiens pouvoir y participer et répondre. Quand ils ne sont pas trafiquants de drogue ou domestiques, ils sont muets et quasiment inexistants. Je parle de qui? Quand ils ne sont pas trafiquants de drogue ou domestiques, ils sont muets ou pratiquement inexistants.
Les animateurs télé?
Non, au cinéma.
Bah, les personnages de couleur?
Au cinéma.
Les noirs?
Les maghrébins, les rôles distribués comme ça?
Et, ouais, c'est un peu ça. Ouais, au cinéma. Ce sont les latino-américains, en fait. Ouais. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Une étude qui a examiné 100 films ayant réalisé le plus de recettes chaque année de 2007 à 2018 sur le marché américain. Sur 1200 films les plus populaires, seuls 4% des rôles prononçant au moins un mot étaient tenus par des acteurs latino-américains. Est-ce que il y a des rôles de Belges? Est-ce que vous avez suivi ça? Est-ce qu'à un moment donné on dit tiens il faut un rôle de Belge? Est-ce qu'il y a un côté de discrimination belge au cinéma?
Ouais, je pense qu'enfin quand on prend des Belges dans des films, c'est un peu casse-gueule qu'on me répond. Je sais pas encore vers où je vais aller.
Non, mais est-ce qu'il y a le Belge? Est-ce qu'il y a le Belge de service?
Bah oui, je pense un peu là dans OSS 117.
Ouais,
là,
c'était un Belge votre personnage.
Ouais, c'est ça. C'est des types qui savent pas très bien où mettre les pieds. Ils sont un peu décalés entre guillemets par rapport à la situation, quoi.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous propose souvent le même genre de rôle, par exemple? Mais ça vous va bien, hein, le rôle de papa. C'est vrai qu'entre Famille Bélier et Fourmi et d'autres, ça vous va bien.
Oui, c'est vrai que j'en ai déjà fait, pas loin, une dizaine. Quoi, ouais.
Mais en même temps, ce serait bizarre qu'on lui propose moins de revues. Enfin,
il
a l'âge pour...
J'attends maintenant les rôles de grand-père.
non, mais je veux dire, c'est que le rôle de papa est essentiel dans l'histoire. Il y avait celui de ce papa qui partait à la recherche de son enfant.
Les
cow-boys, qui était formidable.
Avec
aussi.
Mais c'est vrai que j'en ai reçu pas mal et j'ai encore reçu des scénarios que je dois lire de nouveau avec des rôles de papa. Mais je suis pas convaincu que je crois que je vais faire une petite pause, je vais partir vers un peu autre chose pour explorer un peu.
Pour pas toujours faire la même chose, ouais. Qui a demandé à Boris Johnson, le premier ministre anglais, d'aller se faire foutre?
Franck Provost?
Non.
Ça va. Hugh Grant.
Exactement,
ah oui,
Hugh Grant.
Vrai, Hugh Grant, ouais.
Hugh Grant, qui, l'acteur britannique, ne portait déjà pas Boris Johnson dans son cœur. La décision de suspendre le Parlement a déclenché les foudres, évidemment, de notre bourreau des cœurs sur Twitter. Il a dit « Tu ne détruiras pas les libertés pour lesquelles mon grand-père a lutté au cours des deux guerre mondiale, ça va loin. Est-ce que la politique, vous en êtes jamais mêlé? Vous avez déjà pris position?
Non, je reste toujours un peu extérieur.
Pourquoi?
Ben justement parce que je pense que...
Vous avez forcément une opinion.
Oui, bien sûr, mais je pense que quand vous incarnez des rôles, il faut laisser de la place aux gens pour rentrer dedans, et quand vous avez une couleur politique, après ça, on rentre dans un autre débat.
Et alors, sans rentrer dans une couleur politique, défendre des valeurs?
Oui, mais bien sûr, mais des valeurs, voilà, l'homophobie, l'écologie, le racisme, etc. Bien sûr, mais dès que je peux en parler, j'en parle, mais c'est souvent assez évident, quoi.
Enfin, vous défendez pas, là, vous luttez contre.
Hein. Ouais. Ouais.
Donc, en soi.
Non, il est...
Je suis pour.
Dommage, moi qui croyais avoir trouvé un ami.
Une exposition très cinéphile va avoir lieu à Los Angeles à la fin du mois de septembre. Qu'est-ce que vous pourrez trouver dans cette...
Des objets du cinéma. Une vente aux enchères d'objets
Toute
du cinéma.
Toute l'histoire du cinéma, les plus vieux projos, les plus vieux.
Tu veux quoi, des objets
de... Est-ce que c'est le masque de Dark Vador?
Exactement. Ouais, c'est ça. Non, il y a un côté culte.
Ouais. Porté par
casque,
Rose.
Casque et masque de Dark Vador, robe du magicien d'Oz, la chemise de nuit portée par Marilyn Monroe, des centaines de reliques liées à l'histoire des films d'Hollywood seront mises aux enchères près de Los Angeles.
Nous, on a la grande braderie à Lille. Hein.
Les
Bienvenue chez les ch'tis et tout.
C'est
on
bon, ça va. Hein. Est-ce que vous gardez des objets de, est-ce que vous gardez les costumes de que vous portez, par exemple, ou des objets?
Moi, je garde parfois quelques des vêtements ou.
Souvent, les habilleuses font ça. Disent, tiens, je te laisse la veste de ton personnage.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Elle est récupérable.
Je la garde, genre, la veste de la famille Bélier, je l'ai offert au Télévi en Belgique, quand il y a moyen de
faire une vente aux enchères caritatives.
Oui, c'est ça. Oui, d'accord. C'est pour la donner pour des œuvres ou des.
Donc ce soit utile. C'est
des
pas...
sous-vêtements.
Et il y a quelque chose que il y a quelque chose que vous voulez garder pour vous. Il y a symboliquement.
Non,
vous n'êtes pas fétichiste. Non, vous n'êtes pas attaché aux objets.
Et le slip de Dick Henneck, il est devenu quoi?
Pardon.
Le slip de Dick Henneck.
Le slip de Dick Henneck. Non, je l'ai rendu. Mais vous savez, les derniers jours de tournage, on pense toujours qu'on va récupérer des trucs, et en fait, ça se bouscule le dernier jour, et puis on oublie de demander, puis on repart, et puis on va pas rappeler après pour dire.
Il y a des gens qui repartent avec les slips usagés des autres.
Ouais.
Ah tiens. Bon métier finalement.
C'est un souvenir comme un autre. Hein. Oui. Dans ce film, François Damiens s'appelle Fourmi. François Damiens, Maloune Paquin, André Dussolier, Ludivine Sagnier, Laetitia Deutsch. Je voulais également citer Cassiopée Mayence qui joue Romane. C'est elle d'ailleurs qui donne le surnom de Fourmi à son pote Théo, donc joué par Maloune Paquin. Et Nicolas Vanzicki qui est le beau-père entre guillemets de Théo, le nouveau mec de Ludivine Sagnier qui est
super.
Extrêmement drôle.
Ouais.
Extrêmement
drôle. Il incarne vraiment le nouveau copain de l'ex. C'est...
Qui veut se faire aimer.
Mais évidemment, ouais. Et qui fait tout bien, quoi, lui. Il a le petit break impeccable, ouais. Il a la bonne coupe de cheveux, les petits vêtements.
Il amène la chocolatine. Voilà. Il a tout.
Alors que papa amène les Chamonix, évidemment.
Voilà.
Ouais,
Chamonix, et là, vous n'êtes pas venu avec, et là, je suis très déçu. Ouais. Fourmi, ça sort ce mercredi. C'est tendre, c'est émouvant. Bon, c'est dans le milieu du football, mais ça pourrait être en effet dans un autre milieu. Sauf que là, il y a la promesse d'une ascension dingue, peut-être vers la réussite mondiale. Si ce gamin sort de Valenciennes pour ensuite jouer au football à Arsenal, on imagine que sa vie est surtout la vie de son papa, qui au début du film est totalement dans la loose, pourrait être totalement changé. Mais c'est tendre, c'est intelligent, c'est émouvant.
C'est un beau moment à passer ensemble.
Exactement, ça n'a rien à voir avec Daniel Morin.
Apaisé.
Oui.
Oui, apaisé. Benjamin Griveaux semble apaisé. Le candidat de La République En Marche à la mairie de Paris a croisé ce week-end Hugues Rançon, ancien prétendant à l'investiture. Le mois dernier, Benjamin Griveaux, sûrement affecté par la canicule, avait traité ce brave Hugues de « fils de pute ». Oh ben quand t'as chaud, tu dis conneries, hein, c'est bien connu. Bref, il s'est excusé, Benjamin, mais hier, il a recroisé Hugues avec sa maman, alors il s'est re-excusé. Hein. Et il a quand même un problème avec la concurrence, le Benjamin. À la même période, il avait dit « il y a un abruti par jour qui dit qu'il veut être maire de Paris. Et parfois, ça a même été plus loin. Exemple, concernant à l'époque le possible candidat Pierre-Yves Bournazel, il avait déclaré « Bournazel, je le tiens par les couilles ». Mais qu'est-ce que cette phrase veut dire exactement? Petit retour en arrière avec la rédaction de France Inter. France Inter, flèche spéciale, Benjamin Griveaux semble nerveux en ce moment. Le candidat à l'investiture La République En Marche aurait déclaré en parlant de Pierre-Yves Bournazel « Je le tiens par les couilles », mais cette phrase, au-delà de la vulgarité, que nous dit-elle de Benjamin Griveaux? Explication avec un spécialiste de l'appareillage génital masculin.
Tenir quelqu'un par les couilles, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas une formule amicale. Je vous rappelle que par couille, on entend testicule. Et qui dit testicule dit douleur si la prise est trop forte. Il est vrai qu'on peut très bien tenir un ami par les couilles à l'occasion d'une promenade ou encore pour aider quelqu'un à traverser la rue. Néanmoins, il est préférable de tenir la main plutôt que les testicules. En l'occurrence, je ne pense pas que Benjamin Griveaux ait prononcé cette phrase de façon amicale ou pour faire traverser un aveugle. On peut donc en conclure que la référence à la prise en main de testicules de Pierre-Yves Bournazel est plus qu'une menace, qu'un geste de camaraderie.
Du coup, il s'excuse à tout va, Monsieur Griveaux. On dirait que l'élection approchant, il veut arrondir les angles et polir son côté bien élevé. Il semble vouloir gommer son penchant à l'insulte facile, limite syndrome Gilles de la Tourette. France Inter, flash spécial, après s'être réexcusé auprès de Hugues Rançon et de sa maman, Benjamin Griveaux continue son repentir. Et hier soir, elle se serait rendue à la charcuterie de son quartier pour demander pardon au patron. Il y a 6 mois, il avait traité ce dernier de gros bâtard. La semaine dernière, il aurait été vu chez sa fleuriste, d'après les premiers témoignages. Il lui aurait dit être confus de l'avoir traité de sale chienne l'année dernière. Enfin, cet après-midi, Benjamin Griveaux est attendu de pied ferme pour sa conférence
conférence de presse devant un panel de journalistes politiques, des journalistes impatients de savoir ce qu'il a à leur dire. Trois mois après avoir déclaré, la presse politique, c'est un ramassis de grosse merde. Bon. Pas facile comme exercice la politique, hein. D'un côté, tu dois montrer que t'es un mec ou une nana qui sait se faire entendre et se faire respecter. De l'autre, tu dois trouver un équilibre pour pas passer pour un malotru, sans éducation et sans filtre. Ben, remarquez en même temps, ça n'empêche pas de faire carrière, hein. Même quand on est un gros con, facho, brutal et ordurier. On peut monter très très haut. Regardez Bolsonaro. À demain.
Merci. La bande originale avec Nagui. Cet été, François Damiens, vous avez tourné Cette musique ne joue pour personne, mais le 29 janvier prochain, je crois que c'est le prochain film qui sortira où vous serez à l'affiche, il y a Le Prince oublié. C'est signé Michel Hazanavicius. On refait un clin d'œil avec OSS 117, bien qu'il ne fasse pas le prochain. D'ailleurs, il a décliné la proposition. Vous êtes aux côtés d'Omar Sy et Bérénice Bejo. Ça raconte quoi, Le Prince oublié?
C'est une fable, en fait. C'est un conte. C'est l'histoire d'un papa qui raconte une histoire à...
Une petite fille de 8 ans.
Une petite fille de 8 ans, c'est ça. Et en fait, ben, à un moment, on bascule de l'imaginaire dans la réalité.
Voilà. Et vous êtes encore un papa dans le film?
Non, je suis le méchant ici.
Ah.
C'est Omar qui fait le papa.
Et c'est bien ça? C'est agréable de jouer le méchant?
C'était un super tournage. C'est un des plus gros tournages que j'ai jamais fait, en fait. C'était tourné dans des studios ici à Brie, et avec énormément de figurants, des décors magnifiques.
Des effets spéciaux et un monde imaginaire.
Ouais, c'est ça.
D'accord, ça sortira donc en janvier 2020 prochain. On a hâte d'en reparler ici. Qu'avez-vous retenu de cette émission, monsieur Tanguy Pastureau?
Eh bien, quand on travaille dans le cinéma, on peut repartir avec des slips gratuits.
Marina, Roman.
Moi, j'ai envie de me mettre à écouter Pink Floyd.
Ah d'accord.
Ouais.
Ok, très bien. Tom Villa.
Daniel et Roland. Benoît Poulevard et François
c'est génial.
Énorme. Daniel c'est Morin.
Ben, si on rate sa vie, ça sert à rien de faire des gamins puisqu'ils peuvent même pas vous aider.
Oh.
Une bonne journée.
Leïla, qu'as-tu retenu?
Moi aussi, je crois que c'est Daniel et Roland, quoi. C'est vraiment exceptionnel.
On a envie de les voir.
Ouais, de les voir.
Dan et Ro.
Ouais,
c'est génial.
Et François Damiens, qu'est-ce que vous aimeriez entendre par un spectateur qui sortirait de la projection de Fourmis? De Julien Rapneau.
Bah, qui aurait pu être touché et puis rigoler aussi. Que, voilà, que ça traite de sujets douloureux, mais avec légèreté, on finit par en rigoler, quoi. Et donc, je pense que quand, voilà.
C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Sincèrement, moi, je reconnais avoir ri, je reconnais avoir pleuré. Ça picote. Et surtout, c'est pas faux, quoi. C'est-à-dire qu'on, ce sont pas des ressorts qui sont allés chercher, des ressorts d'émotions qu'on voit souvent au cinéma avec le violon qui se met à jouer.
Mais
on se dit,
là,
il m'a encore attrapé. Non. C'est tellement bien joué qu'on y croit.
On était très bien dirigés parce que c'est vraiment un film qui ressemble à Julien Rapneau. Et j'espère qu'il va marcher.
On le souhaite de tout cœur.
Rien que pour lui, parce que c'est...
avec André Dussolier, Ludivine Sagnier, Malone Paquin, qui est incroyable, et François Damiens, égal à lui-même, c'est-à-dire parfait. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument. Déjà, désolé pour... Ah, mon voisin Tom Villa, j'ai discuté avec le tribunal de la vanne de France Inter, et Dieu sait qu'il est puissant. Et je dois t'annoncer qu'après ta blague anti-migrant, tu vas être fessé cul nu devant la maison de la radio avant d'être envoyé sur...
Enfin,
Radio Courtoisie, la chance, c'est l'artiste. Désolé pour François Damiens, ce matin j'ai discuté à la pause avec Nagui et pour votre prochaine venue, après la poignée de main, le roulage de pelle, il a opté pour le toucher rectal, le fameux TR, comme disent les fans de FA. Désolé pour Benoît Poulevard, Daniel m'a confié ne plus supporter les coups de fil de... Non, François, alors j'en ai parlé à la direction, Jean-Jacques Bloch, non, Laurence Bloch, oh putain, je me suis perdu avec vos bêtises.
Merci beaucoup François Damiens.
Ben, merci à vous. Merci
et encore bravo pour Fourmis ce mercredi au cinéma. Demain on se retrouve ici avec Emmanuel Berco et Vincent McCain.
Une belle comédie.
Pour
un beau film de Cédric Kahn.
Ah oui.
Bah oui.
Fête de famille. C'est vachement bien. On en parlera demain. Bonne journée. Voici tout de suite les carnets de campagne. Philippe Bertrand, pardon pour le retard.
Merci Nagui. À demain. Salut.